Nous fêtons aujourd'hui la croix glorieuse. Et peut-être pouvons-nous commencer avec un tout petit peu d'histoire. Cette fête remonte au IVe siècle de notre ère et elle est en référence à la découverte de la croix, la Sainte Croix de Jésus, par l'impératrice Hélène à Jérusalem. C'était en 326. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, pendant tout le temps de la persécution, hein, vous savez, c'est Constantin donc qui, en 325, légalise le christianisme dans l'Empire romain. Donc, mais jusque-là, c'était le temps des persécutions. Des chrétiens avaient caché cette relique insigne, qu'est la croix de Jésus, donc à Jérusalem. L'impératrice Hélène, on la lui remet lors de sa visite pèlerinage dans la ville. Donc 10 ans plus tard, ça va donner, elle ordonne la construction du Saint-Sépulcre qui est érigé 10 ans plus tard, à Jérusalem bien sûr. Et cette fête de la croix glorieuse, achevons, est une des 12 grandes fêtes célébrées par l'Église orthodoxe. Il y a une procession solennelle de la croix qui la met vraiment en lumière. C'est une fête joyeuse. C'est une fête du salut. On fête la victoire de la croix. Sur quoi? Sur les ténèbres. Et les ténèbres, nous savons, Jésus le désigne. Les ténèbres, c'est pas seulement les petits ennuis du quotidien. Les ténèbres, c'est ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Les ténèbres, c'est ce démon qui est aussi le prince de ce monde. Donc lorsque nous fêtons la croix victorieuse, certes c'est une révolution sociale qui s'est accomplie puisque le christianisme a transformé toutes les valeurs de l'Empire romain de l'intérieur, mais sans faire de révolution au sens profane du terme. Sans renverser quoi que ce soit. Ça s'est fait de l'intérieur, un état d'esprit, et c'est la croix qui a opéré cela. Mais ce n'est pas une victoire sociale en tant que telle. La croix ne promet pas une libération sociale. Ça peut nous désoler, parce qu'on voudrait bien quand même que le Seigneur agisse un peu plus dans nos sociétés, mais le Seigneur nous montre toujours que nous aurons ce combat spirituel, cette tension entre le monde présent, cette vie présente, et puis ce royaume des cieux auquel il nous demande d'aspirer. Le serpent de bronze, on a lu là le fameux épisode dans le livre des Nombres en première lecture, c'est lors de la pérégrination des Hébreux au désert, après leur sortie d'Égypte et avant leur entrée en terre promise, on sait que dans le désert, eh bien, le peuple hébreu a beaucoup récriminé, et contre Dieu, contre Moïse. Il récriminait contre quoi? Contre précisément la dureté de la vie quotidienne. Alors, nous sommes le peuple élu, nous sommes le peuple que Dieu a tiré de l'Égypte, et voilà qu'il nous laisse dans une vie quotidienne pas facile du tout. Le désert, ça n'a rien de facile. Mais vraiment, ce Dieu pense-t-il vraiment à nous? Est-ce qu'on ne devrait pas changer de Dieu? Et c'est là où ça devient grave, évidemment. Donc, à nouveau, pendant 40 ans, ça a été des récriminations régulièrement, comme ça. Et puis, juste avant l'entrée au désert, les voilà qui recommencent. Juste avant l'entrée en Terre Sainte, au bout de 40 ans, les voilà qui reprennent à nouveau leurs récriminations. Alors que la première génération, celle qui récriminait sans cesse, était décédée déjà. Voilà que la deuxième génération s'y mettait. Alors là, Dieu frappe fort et il envoie le fléau des serpents brûlants. Ces serpents, donc, mordaient concrètement les Hébreux quand ils marchaient dans le désert et leur venin était radical, il conduisait à la mort. Moïse intercède, Dieu lui dit, tu vas te faire fondre un grand serpent de bronze, tu le mettras sur un mât, et ceux qui regarderont vers lui, eh bien, seront sauvés. Il ne dit pas qu'ils ne seront pas mordus, mais leur morsure ne sera pas mortelle. On voit tout de suite que quand Jésus s'approprie ce passage, et c'est intéressant de s'interroger, pourquoi Jésus a-t-il voulu s'approprier ce passage précis, s'assimiler au serpent de bronze? Le serpent de bronze, c'est donc un remède. Et qu'est-ce que signifie, symbolise, en tout cas, les serpents brûlants? Eh bien, d'un point de vue spirituel, et non plus matériel, ce sont les tentations, ce sont les péchés. Les péchés mordent les âmes à la manière des serpents qui mordaient le corps des Hébreux. C'est contempler le serpent de bronze était le remède. Eh bien, Jésus l'approprie en disant, bien voilà, je ne vous enlève pas la tentation, je ne vous enlève pas les morsures des serpents, mais ceux qui seront mordus ne mourront pas s'ils regardent vers ma croix, s'ils me contemplent là, sur cette croix, avec cette assurance que cette croix est victorieuse. Victorieuse de quoi ? De ce venin spirituel que les démons, à travers les tentations et à travers les chutes, eh bien, nous communiquent. Un second aspect de ce serpent de bronze, c'est qu'il était élevé très haut sur un mât afin que tout le monde puisse le voir. Ça évoque l'universalité du salut que le Christ est venu apporter. Quelle que soit la nation à laquelle appartiennent les hommes, leur culture, leur histoire personnelle, il est au-dessus de tous, universel, commun à tous, son remède est infaillible pour tous. Voilà ce que signifie aussi ce second aspect. Encore un autre aspect, contempler le serpent. Il était à l'image des serpents brûlants. Ça veut dire quoi? Regarder un serpent de bronze, une image de ces serpents qui nous mordent. Ça veut dire contempler le mal, et d'une façon paisible cette fois-ci, plus dans l'urgence du combat et de la gestion du combat spirituel, mais le contempler pour comprendre la nature du mal, pour comprendre les ravages du mal. De même, lorsque nous contemplons le Christ sur la croix, c'est bien un agneau sans tache, innocent, que nous voyons. Et pourtant, nous voyons cet agneau pur, immaculé, défiguré, torturé sur une croix. Ça nous montre l'ampleur du ravage que réalise le péché, que réalise le mal dans le monde. Ça nous invite à nous en détourner de façon radicale et puissante. Jésus identifie sa passion à l'élévation du serpent. Donc il y a le serpent d'une part, mais il est élevé, donc pour être vu de tous, comme je disais. Il est ce remède universel contre le mal. On doit vraiment en être convaincu. Et en cette fête, nous faisons mémoire de cette victoire, de ce triomphe infaillible de Jésus sur le mal. Ne nous laissons pas impressionner, comme les amis de Job, par la prospérité des méchants. Les sages de l'Ancien Testament ont beaucoup médité ce thème. Les méchants qui s'affranchissent de la loi de Dieu et de toutes les restrictions que ça implique, moralement, eh bien prospèrent dans le monde. Et apparemment, il n'y a pas de fléau, pas de châtiment qui tombe sur eux. Au contraire, bien nourris, bien logés, ils prospèrent physiquement, ils prospèrent matériellement, etc., etc. Ne nous laissons pas impressionner par cette logique-là. C'est la grande leçon du livre de Job, c'est aussi la grande leçon de tout le Nouveau Testament. Parce que si nous sommes impressionnés par la prospérité du méchant, c'est parce que nous mettons toute notre attention sur la vie présente. Or, le Seigneur ne cesse de nous tirer vers le haut pour nous dire eh bien que la vie présente n'est qu'un champ de bataille momentané et que le repos, lui, est éternel. Il nous invite à voir l'éternité. C'est la conclusion de Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. La vie éternelle. Et c'est vrai que Jésus n'a jamais, autant il multiplie des guérisons, autant il fait distribuer de riches aumônes aux pauvres à cause de tout l'argent qu'on lui donne pour lui-même, mais il le distribue aussitôt par les disciples. Eh bien, Jésus, qui s'occupe aussi évidemment de la vie matérielle de ses fidèles, n'a jamais lié son alliance à la gestion du quotidien, au triomphe social du christianisme, par exemple. Jamais. C'est absent de son message. Il le fait, mais il ne le prêche pas comme une garantie de l'alliance, comme un des aspects de l'alliance, du contrat que nous passons avec lui par le baptême. Ce qui compte à ses yeux, c'est que nous soyons tournés vers la vie éternelle, vers le salut. La passion dénonce la logique du monde. Donc, je parlais du scandale du mal, du triomphe du méchant. Mais les morsures du serpent, ce sont les soucis du monde. C'est une autre façon d'appréhender ces morsures. Vous voyez la parabole du semeur. La semence tombe dans les mauvaises herbes au bord du chemin. Et elle pousse des mauvaises herbes et elles étouffent la semence. Et le bon grain, bien, n'arrive pas à maturité. Ce sont tous ces hommes et ces femmes qui ont une bonne nature, qui, entendant le message de l'Évangile, eh bien, sympathisent avec lui, trouvent des résonances claires et distinctes, mais en même temps, les soucis de la vie reprennent le dessus et ils oublient eh bien, cet idéal qui leur a été annoncé, d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est ça, des soucis. Ça, c'est des morsures de serpent aussi, des soucis de la vie. Il ne faut pas laisser les soucis de la vie nous endormir. Pour cela, il faut regarder le crucifié, il faut regarder le serpent de bronze. L'essentiel est ailleurs, dans cette dimension matérielle, spirituelle, pardon, que le Christ nous montre du doigt. Enfin, achevons par le fait que le serpent, c'est aussi un symbole de sagesse. Et ça signifie pour nous que nous devons conserver un équilibre constant et forcément inconfortable entre Dieu dans nos vies et la gestion de la vie terrestre que nous devons vivre, quoi qu'il arrive. Eh bien oui, cette gestion-là est une tension qui sans cesse nous met mal à l'aise et rend la vie un peu inconfortable. Chaque jour, nous devons remettre les plateaux de la balance en équilibre. Il faut donner à Dieu ce qui lui revient et à César ce qui lui revient. Telle est la sagesse de la croix. Mais cette sagesse est possible si nous voyons le primat de l'éternité sur le passager. Alors au cours de cette Eucharistie, célébrons avec joie la croix du Christ qui nous libère et qui nous dit tout son amour pour nous.